Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. L'interview du jour en compagnie de Quentin Charbonnier. Salut à toi.
Salut.
Quentin, tu es ici invité par l'ADEME et comme ça on met tout de suite les pieds dans le plat dans le cadre de la fête de la transhumance, 25e du nom. Fête de la transhumance qui se tient aujourd'hui même, vendredi 19, où cette interview est réalisée, mais ne passera pas maintenant. Et puis demain, le 20 et aussi le 21 juin 2015. Petite présentation, qui es-tu Quentin ?
Quentin Charbonnier, actuellement je travaille pour un programme européen de développement local, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ma présence aujourd'hui. Donc comme tu le disais, j'ai été invité ici par l'ADEME pour parler de la loi pastorale française. Donc je vais donner deux petites conférences sur ce thème-là. Loi pastorale française que j'ai étudiée pendant environ un an en tant que chargé de mission pour l'Association française de pastoralisme, donc un réseau national qui travaille sur le pastoralisme et qui, en 2012, a organisé un grand événement national pour les 40 ans de la loi pastorale.
Un petit mot sur cette association quand même. Comment on atterrit dans cette association ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas ?
Alors, l'Association française de pastoralisme, donc c'est avant tout un réseau en fait. Donc ça réunit vraiment tous les gens qui travaillent autour du pastoralisme, que ce soit donc des éleveurs, des techniciens, des bergers.
Ou par exemple l'ADEME peut adhérer à ce genre de...
Tout à fait, l'ADEME est une association qui est partie prenante de l'Association française de pastoralisme. Et donc, elle organise chaque année plusieurs travaux, des colloques nationaux, des rencontres, beaucoup de travail de terrain aussi. Elle édite une revue qui s'appelle Pastum, où voilà, les différents membres publient des travaux dessus. J'ai atterri dans cette association en tant que stagiaire à l'origine, donc ils cherchaient quelqu'un pour travailler justement sur cette loi qui fêtait ses 40 ans.
Alors quelles étaient tes études à toi, tu faisais quoi là?
Alors à l'époque, je faisais un master qui s'appelle Patrimoine rural et valorisation culturelle.
Ah quand même, donc il y a un lien un petit peu.
Voilà, qui forme justement des gens pour mêler un peu l'histoire, la culture, voilà, pour travailler principalement sur les milieux ruraux.
Une loi pastorale, enfin moi quand j'entends loi, je me dis c'est un truc complexe avec un kilomètre de texte compilé dans un truc très épais. Est-ce que c'est le cas et comment t'en viens à te passionner peut-être, j'espère, pour ça?
Alors c'est justement tout l'intérêt de cette loi, et c'est pour ça qu'on peut facilement s'y intéresser, c'est que c'est une loi qui est très simple, très courte, il y a 15 articles, genre lis mes notes en même temps, il y a 15 articles seulement, elle est très pratique en plus. Puisque en fait elle a mis en place trois outils qui sont simples mais qui ont vraiment permis au pastoralisme de se moderniser, donner des outils pratiques pour s'organiser dans le futur.
Cette loi est nouvelle ?
Alors cette loi du coup elle a 40 ans maintenant, donc elle est ancienne, mais elle a quasiment pas été retouchée en fait depuis cette date, et en fait les outils qu'elle a mis en place, donc je pourrais présenter tout à l'heure, toujours appliqués aujourd'hui, et au contraire ils se développent de plus en plus.
Et alors pour finir sur cette introduction, quel était l'objectif des associations, en tout cas enfin, l'association que tu nous présentais tout à l'heure par rapport au pastoralisme, enfin par rapport à cette loi, je m'embrouille moi-même.
Alors en fait, l'Association française de pastoralisme, oui. Donc du coup elle connaît très très bien cette loi parce qu'elle l'utilise au quotidien à travers ses différents réseaux. Et à l'occasion de ses 40 ans, elle s'est dit que c'était l'occasion déjà de faire un bilan, de comprendre d'où venait cette loi, parce qu'elle atterrit au début des années 70, dans une période où on parlait plus trop de pastoralisme. Donc voilà, il y avait déjà une curiosité scientifique, on va dire, à la base. Et ensuite, le deuxième élément, c'était d'organiser un grand événement à l'occasion des 40 ans de cette loi, donc qui s'est déroulé du coup en 2012 à l'Assemblée nationale, était donc de faire le bilan de cette loi et un peu d'en tirer les perspectives, notamment dans le cadre de toutes les refontes européennes, des aides européennes, etc.
Alors super, ça m'a donné deux perches. La première, faisons un peu l'historique de cette loi pastorale. Pourquoi elle tombe dans les années 70 alors que tu le disais, visiblement, le pastoralisme était en train de chuter lui aussi. Ce qui tient fait un petit peu écho quand même avec le thème de la fête de la transhumance de cette année, puisqu'il est question de transmission. Et puis donc ce bilan, évidemment, on le veut. Alors commençons par l'historique.
Alors l'historique, alors là c'est quelque chose pour en parler longtemps parce que j'ai pas mal travaillé dessus.
C'est pour ça qu'on a Quentin Charbonnier.
Donc, pour s'en mettre un peu dans le contexte de l'époque, on est dans les années 60, c'est l'époque de la modernisation de l'agriculture, hein, vraiment un mouvement social où on veut que l'agriculture soit productive, soit forte, aille concurrencer les marchés internationaux. Et donc forcément, à cette époque-là, les textes de loi qui sont toujours très globaux, très nationaux, prend pas trop en compte les activités qui se passent sur des zones particulières et qui sont des systèmes de production un peu différentes du système global sur lequel on s'orientait à l'époque.
Est-ce qu'il y a eu un conflit mécanisation d'ailleurs aussi?
Alors,
parce que cette activité pastorale est très peu mécanisée
finalement. Voilà, alors sans parler vraiment de conflit, mais il y avait forcément une intensification, une orientation qui se tournait voilà, vers la mécanisation, etc. Et du coup, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, les alpages ont commencé un peu à avoir de la perte au niveau des personnes présentes, donc de l'enfrichement, des vrais problèmes qui commençaient à se poser, une chute progressive un peu de cette activité dans la montagne. En fait, cette loi, elle était vraiment rendue possible grâce à quelques acteurs très motivés. Si on veut remonter un petit peu, ça remonte on va dire le début du XXe siècle, où il y a les gens qui travaillent sur le terrain, qui commencent à percevoir qu'il y a des limites un peu à cette évolution de l'agriculture et qui disent il faut qu'on commence à faire quelque chose, qu'on commence à s'organiser. Et donc progressivement, voilà, c'est ces gens-là qui sont à l'origine des forestiers, c'est ça qui est aussi assez intéressant, qu'on a tendance un peu à toujours opposer les forestiers et les agriculteurs de l'autre, puisqu'ils utilisent un peu le même espace dans les montagnes. Et en fait, les premières personnes vraiment à se rendre compte des problèmes qui se posent si l'activité pastorale quitte les montagnes, et ben c'est des forestiers. C'est eux qui sont les premiers qui alertent les pouvoirs publics.
Alors, on l'a souvent rappelé à cette antenne, puisque ça fait plusieurs années qu'on suit évidemment la fête de la transhumance, mais on peut tout de suite remettre dans la tête des gens le pourquoi les forestiers. Parce que l'activité pastorale entretient plus ou moins, en tout cas, des espaces en dégageant des forêts, en étant...
Voilà,
ça évite l'enfrichement.
Voilà, tout à fait. Parce que l'idée, au 19e siècle, un peu l'idée du pouvoir centralisateur, c'était de dire, bon, le pastoralisme, c'est très bien, mais la forêt, ça permet aussi de retenir les montagnes, d'éviter les éboulements, etc. Ouais. Ça, voilà. Sauf que les gens, quand ils sont arrivés sur le terrain, ils ont dit, le bon entretien du terrain, c'est l'équilibre entre prairies et entre forêts. Parce que justement, la prairie aussi entretient le terrain. Elle permet justement d'ouvrir les hameaux, bien sûr, d'apporter la vie sociale au cœur des villages, mais aussi d'entretenir tous les espaces montagnards. Et c'est vraiment ces gens qui étaient sur le terrain qui ont dit, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et si on veut que les montagnes continuent à vivre, si on veut aussi que voilà, l'environnement, les paysages demeurent tels qu'ils sont actuellement, il faut absolument faire quelque chose. Et ce mouvement-là, il s'est même, on va dire, d'un point de vue scientifique, s'est ancré de manière très forte à partir des années 50 et 60, où il y a un institut scientifique qui a été créé, qui s'appelle l'INERM. C'est l'Institut National d'économie sur la recherche montagnarde. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les initiales. Qui a été créé à cette époque-là, justement poussé hein, par des gens très motivés. Cet institut scientifique, c'était une poignée de personnes, hein, vraiment. Eux, ils sont allés directement sur le terrain, ils sont allés faire les relevés, ils sont allés témoigner aussi de ce que pouvait impliquer la chute de l'activité pastorale. Et puisqu'ils étaient rattachés directement au ministère de l'Agriculture, donc faire remonter auprès des élus et du ministère l'urgence d'agir pour avoir en fait vraiment une politique différenciée, puisque c'est aussi ça la grande question de la loi pastorale, c'est de dire qu'on ne peut pas traiter toutes les questions de la même manière. Et
toutes les questions agricoles.
Voilà, toutes les questions agricoles de la même manière, et que ce qu'on promeut en plaine peut pas s'appliquer en montagne forcément, et qu'il faut des fois des politiques spécifiques et adaptées pour répondre à ces exigences-là.
Donc il y a eu une espèce de diagnostic, de remontée du manque à gagner bien sûr, et puis de la nécessité d'avoir une politique plus particulière. Alors allons-y franchement, cette loi pastorale, tu disais trois grands thèmes.
Trois grands outils qui se complètent les trois en fait. Donc je vais tout de suite les nommer. Le premier, c'est les associations foncières pastorales. Ça permet de regrouper des propriétés, puisque en fait, les zones pastorales, souvent, c'est très morcelé. Donc ce sont des petites propriétés avec une multitude de propriétaires, que ce soit des privés, des communes, etc. Et donc, pour exploiter ces zones, c'est souvent compliqué parce qu'il faut du coup passer par une multitude de contrats, etc.
On imagine une barrière à chaque fois
voilà.
Aussi.
Enfin, bon, donc là, une idée qui paraît très simple comme ça, mais c'est de créer une association qui regroupe tout ça. L'utilité de ces associations foncières pastorales aussi, c'est quand les créer. Donc, bon, il y a des statuts juridiques hein, très précis sur lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais quand on a une majorité de propriétés, enfin d'hectares, possédés par une majorité de propriétaires, on peut aussi englober ceux qui ne sont pas forcément d'accord pour adhérer à cette association foncière pastorale. Donc, on crée un espace.
On en a 4 ou 5 autour. Voilà. Ceux du milieu, ils sont obligés d'y passer. Quoi.
Voilà, ils sont obligés d'y passer. Alors, généralement, on évite de passer par la force. Hein. Je pense que s'il y a 2-3 techniciens pastoraux qui nous écoutent, ils diront que ce n'est pas la bonne méthode à faire. Non, mais en tout cas, la loi permet de faire ça. Ça permet de faire ça surtout parce que des fois, il peut y avoir des petites propriétés suite à des indivisions. On ne sait plus vraiment qui est le propriétaire. Il est loin. Et donc... Voilà, ça permet d'avancer et d'exploiter ces zones, voilà, de tout simplement hein, de les mettre en pâture de manière claire, réglementée.
Et cohérente, hein,
et cohérente évidemment. Voilà, ouais, sur des estives cohérentes.
On n'imagine pas de la clôture au milieu d'un champ ou d'une grande prairie.
Voilà, et justement, après les associations.
Par ailleurs, je te coupe, on parle bien en plus de propriétés qui sont parfois, on va parler d'ici, au sommet du Glandas, enfin sur des. Voilà, les gens ne savent des fois même pas qu'ils ont un petit bout de montagne.
Tout à fait.
Alors, est-ce que du coup, dans cette première démarche, au-delà d'éventuellement proposer une imposition d'exploitation, est-ce qu'il y a toute une recherche des propriétaires?
Ouais, alors souvent, c'est ça qui est pour lancer une association foncière pastorale, il y a tout un travail qui doit être fait localement pour retrouver à qui appartiennent les propriétés, etc. Et ensuite, un grand travail de concertation avec l'ensemble des acteurs. L'élément qui fait toujours bien avancer les choses, c'est quand la commune, qui est souvent propriétaire aussi de terrain, est bien investie dedans et un peu le moteur de tout ça.
Et pour écarter tout de suite l'aspect financier, évidemment, on touche quelque chose à louer sa parcelle,
si
on est forcé.
Voilà. Après, de toute façon, c'est une structure juridique très précise avec des contrats qui sont passés. Et donc, les locations qui sont faites derrière dans ce cadre-là, bien sûr, sont générateurs de revenus comme toute location. Pour finir après sur les associations foncières pastorales, l'autre avantage, c'est que ça permet aussi de mutualiser des travaux d'aménagement, de mettre en place aussi des démarches environnementales sur des espaces donnés. Parce que du coup, on est sur des espaces plus ou moins grands sur lesquels il y a une structure juridique qui existe. Donc, c'est cette structure.
En termes de protection,
voilà,
par exemple, de l'espace.
Voilà, en protection, en termes d'aménagement, en termes de travaux.
Aménagement, par exemple.
Voilà, de tout type. Hein, ça va être les travaux d'éclaircissement, ça va être des barrières.
Des sentiers, par exemple, ça
des sentiers. Ça, ouais. Voilà, tout type de travaux.
Même des GR qui sont employés par les touristes, qui sont parfois employés, enfin, au moins une fois dans l'année, employés par les.
Tout à fait, voilà. Plein de travaux qui peuvent être menés sur ces estives. Du coup, l'association foncière va pouvoir être le moteur de ça, va pouvoir les financer, etc. Et ça va être aussi des structures sur lesquelles vont s'appuyer d'autres des collectivités, par exemple, ou des parcs nationaux pour mettre en place des zones Natura 2000 ou d'autres choses. Voilà. C'est vraiment une structure presque de développement, on va dire, et d'organisation territoriale sur ces espaces-là.
Association foncière pastorale.
Pastorale, voilà, les AFP.
AFP, donc le premier outil de cette loi pastorale.
Voilà, et le deuxième outil, donc c'est le pendant, forcément, c'est ce qu'on appelle les groupements pastoraux, du coup les GP. Et là, c'est tout simplement permettre à des éleveurs de travailler ensemble. Voilà, ce sont des associations d'éleveurs.
Voilà, donc là, c'est ce qu'on constate hein, quand on fait cette fête sans trop s'y intéresser. J'adore cette liaison. On voit passer des moutons. Ils sont les fruits de ces groupements. Les éleveurs se mettent à plusieurs pour avoir des gros troupeaux, pour pouvoir payer à plusieurs un berger qui va les garder en estive sur ces fameux...
sur les fameuses AFP. AFP. Alors, l'un peut fonctionner sans l'autre. Hein. Voilà, des AFP peuvent contractualiser avec des éleveurs individuels sans problème. Et des groupements pastoraux, eux, peuvent aussi travailler sur des estives qui appartiennent à une seule personne. Voilà, ces différents outils peuvent fonctionner très bien l'un sans l'autre. Voilà, ça a été pensé pour couvrir un peu l'ensemble des dynamiques. Donc il y a plusieurs types de groupements pastoraux. Pareil, l'idée c'était de faire aussi quelque chose de souple. Ça peut prendre la forme d'associations, ça peut prendre la forme de sociétés civiles comme des GAEC par exemple, de GIE aussi, des groupements d'intérêt économique. Ensuite, les éleveurs donc, qui font partie de ces associations, donc, comme tu le disais, parfois mettent leur troupeau en commun pour éviter des coûts trop importants, pour avoir des grands troupeaux, pour occuper les estives, etc. Mais peuvent aussi garder leur troupeau chacun de leur côté, entre guillemets.
Mais alors, quel est l'intérêt d'être dans un groupement ?
Pareil, de mutualiser des lieux communs, certains travaux aussi communs sur des choses qui peuvent appartenir au groupement. Voilà, ça permet de mutualiser en fait des choses. Pour des jeunes aussi, ça permet de s'insérer plus facilement aussi au sein d'un groupe, donc avoir un accompagnement, etc. Enfin, ça permet aussi d'être reconnu comme structure pour travailler avec différents partenaires.
Mmh. Et oui, et dans les partenaires, évidemment, tu citais les AFP, hein, on va les, les appeler comme ça. Ça fait penser à un autre truc, l'AFP, non, c'est pas ça?
Oui.
Bon, bref. Et puis, nous, on le sait, par exemple, ici, en tout cas, les brebis qui traversent Die sont celles qui vont brouter la station du col du Rousset, qui est donc au département, par exemple. Mmh. Et puis, il y a des espaces, effectivement, qui appartiennent à d'autres types de collectivités, tu le rappelais, des parcs naturels, des communes. Donc, on pourrait brouter n'importe où.
Voilà.
Et le troisième outil alors de
Alors le troisième outil, c'est ce qui permet de faire la jonction entre les deux. Donc on les appelle les conventions pluriannuelles de pâturage. Ce sont les CPP, tout simplement des formes de location. Donc puisque dans le monde rural, il y a le bail à ferme, enfin le bail traditionnel qui existe.
Comme un bon vieux bail locatif, voilà. Même de n'importe où.
Sauf que pas toujours très facile à appliquer lorsqu'on parle d'estives, d'espaces pastoraux qui sont occupés une seule partie de l'année, sur lesquels des travaux, dans le bail rural, il y a des clauses très précises sur qui fait les travaux, l'aménagement, etc., le preneur de la charge pendant un certain nombre d'années de son terrain. L'idée de ces conventions pluriannuelles de pâturage, c'est avoir une forme plus souple de location des terres qui sécurise tout de même l'éleveur. Parce que justement, dans ces années-là, les années 50-60, le bail à ferme était souvent un peu, on va dire, juridiquement trop lourd pour s'appliquer sur ces estives-là. Et souvent, les propriétaires passaient par ce qu'on appelle des ventes d'herbes. Donc, c'est une forme de location aussi, c'est-à-dire qu'on...
Ou un forfait, voilà tant à l'hectare.
Voilà. Ouais. Et qui, du coup, on n'apporte aucune sécurité à l'éleveur, puisque ce sont des ventes qui sont réalisées d'année en année. Ouais. Et sur certaines estives, un petit peu prisées, du coup, le propriétaire avait aussi la possibilité de faire monter des il y avait même des terres qui étaient mises aux enchères. Et il y avait aussi beaucoup de locations qui se faisaient sans contrat, avec des fois des excès, mais dans les deux sens. Voilà.
Donc, et puis de toute façon, pas de vision à long terme, pas de pérennité. On ne sait pas si l'année prochaine, on retourne sur le même pâturage. Enfin, voilà.
Voilà. Donc, il fallait trouver un système qui était juridiquement imposé les choses, qui apportait de la sécurité à l'éleveur et au propriétaire, et qui était malgré tout relativement souple. Et donc, c'est l'avantage des CPP, des conventions pluriannuelles de pâturage, parce que déjà, elles permettent des travaux d'aménagement qui peuvent être partagés entre le preneur et le bailleur, et elles ne font pas obstacle à la prise de contrat sur d'autres périodes de l'année. Je vais reformuler. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain, lorsqu'il loue son estive, il peut la louer à une autre période de l'année à quelqu'un d'autre, notamment tout le circuit touristique pendant l'hiver.
À une station de ski.
Voilà.
Très clairement, un bail en général, c'est ce qui lie un propriétaire et son locataire pendant une durée qui est déterminée.
Voilà.
Dans le cadre d'un agriculteur, on appelle ça un fermage. Il est en fermage, et alors donc le propriétaire, finalement, à moins d'avoir établi un petit peu quels sont les droits de chacun, en général, c'est le fermier qui fait ce qu'il veut. Et en même temps, s'il n'exploite pas la terre, c'est son problème.
Mmh.
Alors que là, l'estive peut avoir plusieurs fonctions, donc plusieurs locataires, plusieurs fermages. On va dire ça comme ça.
Voilà.
Et alors, 40 ans après, Quentin Charbonnier, sur cette loi pastorale, le bilan ?
40 ans après, c'est de voir que ce qui est très intéressant, c'est que la loi, donc, déjà, elle fonctionne toujours très bien. Elle a très, très peu évolué. Il y a eu quelques retouches par-ci, par-là. Maintenant, elle est inscrite dans le code rural. Un des constats qu'on fait, c'est justement de cette souplesse de juridique, en fait, qui a été mise en place. Elle a permis à ces trois outils de s'appliquer sur des espaces qui sont totalement différents, que ce soit donc les estives qu'on connaît ici, mais aussi tout ce qui se passe dans l'ouest autour de marais, tout ce qui se passe en forêt, en bordure de forêt, etc.
Oui, parce que t'es invité par l'ADEME, mais on avait déjà fait cette question une fois, Association Dromoise d'économie montagnarde, mais en fait, ils gèrent aussi les estives qui sont dans la plaine. On le sait souvent moins, mais ça se fait, quoi.
Voilà.
Donc, dans les marais, tout ça.
Voilà. Et le pastoralisme, il y a des espaces en France où on pratique le pastoralisme, où il n'y a pas de montagne.
Pas du tout en montagne.
Donc, en zone humide, en zone sensible, mais où toujours on pratique un élevage extensif qui se base uniquement sur la ressource naturelle. cette loi, voilà, elle est toujours bien vivante aujourd'hui. Ces outils, ils continuent d'exister et ils ont permis de répondre à pas mal de problèmes, à structurer un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant là, quand on a organisé justement les 40 ans de cette loi pastorale, c'est qu'on a voulu que ce soit un événement un petit peu européen. Enfin, même pas un petit peu, complètement européen. Il y avait une matinée, voilà, on a raconté un peu tout ce que je viens de dire de manière un peu rapide. Et l'après-midi, en fait, on avait invité de nombreux territoires européens où il y a du pastoralisme. Et le constat qui était fait, c'est que, ah oui, vous avez quand même des super bons outils qui fonctionnent et vous avez cette chance-là. Alors que la France était beaucoup en retard, en fait, sur les politiques de montagne à cette époque-là. Mais aujourd'hui, grâce à cette loi, on a réussi à répondre à voilà, un certain nombre de problèmes.
Tu voyais des pays qui étaient vraiment dans des situations absolument pas gérées. Et quel est le risque alors quand il n'y a pas ce type de loi? Bon, l'enfrichement, tu le
voilà,
disais principalement.
Voilà, principalement, c'est bon, le risque de la chute de l'activité pastorale, il est multiple. Il est paysager, mais il est aussi économique et social. Puisque souvent l'agriculture, c'est ce qui fait vivre ces villages de montagne. C'est ce qui apporte de l'économie aussi localement, des habitants, donc derrière des enfants, des écoles, toute une vie qui convient de te prendre en compte. Quoi. Tout ça est très, très, très lié. Quoi. On a travaillé avec différents territoires où voilà, il y a des grosses problématiques économiques qui se posent. Un manque de structuration, un manque de prise en considération aussi parfois au niveau national. Des territoires qui peu à peu s'enferment et commencent progressivement à pas mourir mais à se remettre vraiment en question. Et avec un vieillissement aussi de ces personnes-là, une perte des savoir-faire aussi derrière. Enfin, voilà, comme je le disais, tout est un peu lié, l'économique, le social, toute cette vie qui entoure cette activité et qui, si elle n'est pas prise en compte justement dans sa globalité, peut avoir des conséquences assez terribles pour ces territoires.
Effectivement, quand on n'a pas la possibilité, en tout cas, d'être protégé dans son travail, ben c'est encore plus difficile de le transmettre, voire même de susciter l'intérêt que des jeunes. Et donc, je le rappelle, hein, c'est le thème de cette fête de la transhumance, voilà, la transmission du pastoralisme. Quentin Charbonnier, tu es aussi présent donc, sur cette fête de la transhumance pour faire deux conférences. Alors, on va rater celle de ce soir puisque cette interview est décalée. Il y en a une autre demain, à quelle heure
d'ailleurs? Demain matin, à 11h.
Demain matin, on l'aura raté aussi.
On l'aura raté.
Et alors, ben, elles étaient bien tes conférences?
Je suis sûr qu'elles sont bien.
Qu'est-ce que tu abordes?
Je vous représente un peu ce que je viens de dire, un petit peu plus en détail, et surtout je m'attache à décrire un peu l'histoire de cette loi sur un peu le long terme, voilà, en partant justement du 19e siècle, des constats qui étaient faits, et un peu de se questionner sur la vision qu'a eu le pouvoir centralisateur, l'État, sur ces territoires, vision qui vraiment, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette loi pastorale, elle témoigne un peu d'une prise de conscience que justement cette vision doit changer. Et c'est ça qui est aussi intéressant. On est un peu à un tournant, en fait, à ce moment-là. Elle est même, on va dire, un petit peu en avance. Puisque, justement, dans cette loi, il y a un article, c'est l'article 14, je crois, qui demande, en fait, à ce que le gouvernement dépose dans l'année, donc dans l'année 72, une loi qui porte statut de la montagne. Donc, voilà, on a des élus qui sont très, très motivés à l'Assemblée, puisque ça passe par amendement. Et ils disent, allez, on passe un amendement et il faut qu'on fasse une vraie loi montagne. Tout un système juridique qui dit que ces espaces montagnards, eh ben, ils sont un petit peu différents. Et cette loi montagne, elle a vu le jour, mais en 85, donc 13 ans plus tard. Voilà. Mais bon, la première pierre, elle avait été quand même posée en 72 avec la loi pastorale.
Toute une réflexion qui a été engagée grâce à cela. D'autres choses encore? Toi qui as cherché.
Voilà, ce changement de mentalité, cette prise de conscience. Après, il y a aussi des effets, j'en ai pas parlé jusqu'à tout de suite, mais aussi des effets économiques, puisque ensuite, il y a eu des décrets qui sont passés, avec aussi des aides qui ont pu être amenées à partir de 73 pour l'agriculture de montagne. C'est ce qu'on a appelé l'ISM, l'indemnité spéciale montagne, voilà, je retrouve mes mots, la prime à la vache tondeuse. Donc c'était à l'époque où Jacques Chirac était ministre de l'Agriculture.
Il adorait taper, voilà, sur le cul des vaches.
Voilà, donc là il en avait beaucoup parlé à l'époque, mais n'empêche que cette loi, c'est pas une loi, c'est une aide. C'est une aide qui dit que l'agriculture en montagne, elle n'est pas comme le reste de l'agriculture, et donc il faut des indemnités compensatrices. D'où l'idée de cette prime. Voilà. Et prime à la vache tondeuse, puisque justement, ça rejoint l'idée d'entretien de la montagne. Alors, aujourd'hui, on parle d'ICHN. Ça parlera peut-être aux gens qui nous écoutent, indemnité compensatoire des handicaps naturels, mais c'est en fait la poursuite de ça. Voilà, c'est la prise en compte de la spécificité de l'activité et de la spécificité de l'agriculture de montagne.
Alors, brouter l'herbe de montagne, il y a un handicap, quoi. C'est pas aussi.
C'est pas aussi facile qu'ailleurs, et ça entraîne plein de résultantes positives. Pour les paysages, pour l'environnement et pour la vie, tout simplement, de ces espaces montagnards.
Alors maintenant que tu n'es plus du tout dedans et que je te donne l'occasion de cracher dans la soupe, Quentin Charbonnier, est-ce qu'il y a quelque chose de négatif avec cette loi ?
Des choses négatives, je ne pense pas forcément. Après, il y a sur le terrain, et je pense que ça, tout le monde est d'accord, c'est que pour l'appliquer, ce n'est pas toujours forcément très facile, même si elle est souple, elle est adaptable, etc. La richesse du pastoralisme aussi, c'est sa pluralité. On a des systèmes sociaux qui vont être très très différents entre les Alpes et les Pyrénées, par exemple, pour montrer un peu les extrêmes, avec des organisations locales qui vont être vraiment totalement différentes. Les limites de la loi, on va dire que ce ne sont pas vraiment des limites, mais elles peuvent être, ces outils, notamment les associations foncières pastorales, peuvent des fois être un petit peu complexes à mettre en place, et des outillages juridiques à monter. Et justement, tout l'intérêt d'avoir des systèmes locaux, par exemple comme l'ADEME, des services pastoraux avec des techniciens qui peuvent accompagner les éleveurs, les propriétaires à mettre en place tout ça sur le terrain.
Voilà, le boulot de l'ADEME, c'est ça, tu viens de le dire, c'est vraiment
c'est une de leurs missions.
Une de leurs missions, d'aider les éleveurs ou d'aider les propriétaires à faire les deux premiers outils dont on parlait, AFP et GP.
Voilà, tout à fait.
Association foncière pastorale et groupements pastoraux. Quentin, alors aussi, puisqu'on parlait de cette loi pastorale, d'éventuellement des points négatifs qu'il pourrait y avoir, est-ce qu'il est opportun d'aborder le loup avec toi, la question du loup qui vient, lui, effectivement, mettre à mal à la fois ses groupements et à la fois ses associations foncières, simplement parce que si l'activité pastorale a été maintenue et vivement maintenue en France, on le sait, c'est aussi pour contrôler le sauvage en partie. Et il y a eu, on parlait du 19e siècle et du 18e, des grandes charge contre le loup et pour éviter tout ça et maintenir cette activité pastorale. Aujourd'hui, il revient. Est-ce que ça va être en conflit avec cette loi pastorale ? Est-ce que cette loi pastorale doit maintenant, à ton avis, intégrer un quatrième outil ?
Je vais pas dire joker, même si c'est tentant.
Alors, juste ton avis, comme ça.
Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à cette loi, à cette époque-là, on n'en parle pas du tout, tout simplement. Parce que
il avait été éradiqué.
Il n'existait plus du tout. Donc, c'est vraiment... on est dans totalement d'autres problématiques. Mon avis personnel, c'est... Comment dire ? On va dire que je joue un peu au normand, mais c'est qu'il faut tenter d'aller vers... une sorte de conciliation, même si de prime abord, bien sûr, j'ai eu bien conscience qu'elle semble totalement impossible à imaginer, mais le problème de cette, du loup, des prédateurs en général, c'est qu'on cristallise tout de suite des tensions très très vives entre le naturel et entre, on va dire, un peu l'humain, l'économique, c'est-à-dire parce qu'on est face à des éleveurs où là, on touche à leur vie quotidienne, quoi. Alors qu'en fait, quand on s'intéresse au pastoralisme, quand on comprend ce que c'est, on répond complètement en fait, aux problématiques environnementales, puisqu'on est sur un système agricole qui...
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai, excuse-moi de te couper, volontairement opposé l'aspect naturel,
oui.
Dont je pense réellement que le pastoralisme est dans une activité naturelle, au sauvage.
Oui, oui. Il y a des terrains sur lesquels, forcément, ces deux oppositions très, très vives se retrouvent. Et il faut approfondir dans ce système-là et il faut que chacun arrive à s'affranchir de certains critères. Alors, certains me répondront que des efforts ont déjà été largement consentis et que les effets ne sont pas là.
Est-ce que
je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, malheureusement.
Est-ce que tu penses, même d'un point de vue... je ne demande pas de te positionner comme l'ADEME ou comme un certain nombre d'éleveurs, mais vraiment en se reconcentrant sur cette loi pastorale dont l'objectif était de protéger ou de maintenir des espaces naturels mais abordables en montagne et non pas complètement sauvages, c'est-à-dire l'enfrichement favorise le loup. L'abandon des prairies dans ces zones-là va favoriser forcément l'extension du loup qui va pouvoir se déplacer plus facilement. Donc on est bien quand même dans cette loi pastorale. Maintenons notre activité là-haut, mais pour autant, il y a ce prédateur. Alors, est-ce que ça peut passer, peut-être, par des zones délibérément abandonnées? Est-ce que ça va pas déplacer le problème?
Ah,
Et est-ce que, franchement, au fond de toi-même, tu penses pas que non, on avait décidé à un moment donné qu'on pouvait pas faire avec le loup, alors on peut pas le faire avec le loup?
Moi, je pense que de toute façon, le loup, c'est un prédateur qui est extrêmement mobile et qui s'il ne se ressent pas de tension et justement de prédation sur sa propre personne, n'hésitera pas longtemps à sortir des zones sur lesquelles on estime
Il a le
il
droit
devrait
d'être.
rester.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc,
Donc il lui faut un prédateur.
je ne sais pas s'il lui faut un prédateur, mais en tout cas, si je pense qu'on s'en sortira pas en pensant qu'il restera dans son coin gentiment et qu'on pourra développer notre activité dans un autre coin. Voilà. Il y a forcément de la rencontre, il y a forcément des choses qui se passeront. Donc, il faut différents systèmes qui ont été testés. Hein, ça passe par les patous, le gardiennage,
Les fusées de bateau en
voilà.
l'air.
Oui, voilà. Il y a plein de choses qui ont été mises en place. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de gens qui ont investi et qui, derrière, nous répondront que c'est inefficace.
En tout cas, il y a eu beaucoup
Voilà.
d'énergie passée là-dessus, c'est vrai. Et encore.
Et encore.
Bon, mais je te remercie quand même d'avoir répondu.
Et voilà,
Et c'était pas
j'ai
facile.
essayé d'apporter quelque chose en tout cas.
Non, mais puis ça va être le grand piège de toutes ces rencontres autour de la fête de la transhumance, parce qu'évidemment, on ne peut pas s'en passer. Et ici, dans le Diois, ben, c'est quand même un truc qui arrive de plus en plus. Et d'ailleurs, les groupements pastoraux d'altitude ne sont plus les seuls attaqués, sachez-le. Le loup commence aussi à descendre dans la plaine. Alors, quand il n'y aura plus de brebis, que viendra-t-il manger? En tout cas, il est là. Quentin Charbonnier, sur cette loi pastorale, merci. Est-ce que tu verrais quelque chose qu'on n'a pas abordé?
Voilà, on a parlé d'outils. Certains, ça peut peut-être paraître un petit peu technique, un petit peu. Mais voilà, moi, ce qui m'a intéressé, je n'ai pas du tout de ce milieu. Hein, moi, ce qui m'a intéressé, justement, c'est l'impact que déjà ça a eu sur cette activité. Ça a permis de le relancer, de le maintenir. C'est l'outil juridique en lui-même, quelque chose de. Voilà, comme je disais, 15 articles, très souples, pratiques. Enfin, je veux dire, quand on regarde les discussions à l'Assemblée nationale sur cette loi, on a envie de dire, mais c'est génial, quoi. Il y a très peu de débats, voilà, on est sur l'opérationnel.
Faites-en d'autres des comme ça,
Voilà,
quoi.
on est totalement à l'inverse de ce qui peut se passer éventuellement actuellement. Plus généralement, voilà, cette remise en question globale de qu'est-ce que c'est la montagne, qu'est-ce qu'on y fait sur ces espaces, parce que, alors, on n'a pas parlé, mais on a aussi une époque où on se dit, bah. Peut-être qu'agriculture, de toute façon, c'est condamné. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire du tourisme à fond et puis de l'activité forestière à fond? Mais non, en fait, c'est la combinaison des activités qui fait qu'on peut avoir une montagne vivante et garder voilà, ces paysages et toute cette vie qui est liée, quoi.
Alors effectivement, c'est étonnant. L'Assemblée nationale s'accorde sur le fait que la diversité, fût-elle bio ou pas, est importante, mais pas sur le reste, hein. Quentin Charbonnier, merci. C'est quoi ton... Rappelle-nous ce que tu fais maintenant.
Alors oui, je travaille pour un programme européen qui s'appelle Leader.
Ah bah oui.
Vous devez sûrement le connaître ici. Moi, je travaille dans le Beaujolais. Donc, un programme européen qui apporte des subventions pour des projets un petit peu innovants, un petit peu exigeants. Et notre territoire, donc nous, le Beaujolais, mais alors la partie, ce qu'on appelle le Beaujolais vert, là où il n'y a pas de vignes, ça surprend toujours les gens, voilà, qui est principalement aussi agricole et forestière. Et donc, on travaille principalement sur le changement de pratique, sur ces activités-là, dans le cadre du changement climatique, et sur la transition énergétique, voilà, la baisse des consommations d'énergie et la création d'énergie locale.
Ouais, après tu t'attaqueras au Beaujolais vigne pour qu'il
Ah,
s'arrête.
voilà.
Enfin bon.
C'est
Ouais.
encore un autre débat.
Merci Quentin.
Eh ben, merci à toi.
Hey, de belle. L'interview du jour.